France Culture. Bonjour et bienvenue dans Culture Monde, une émission préparée avec Mélanie Chalandon, Inès Bouffartig-Sébastia, Barthélémy Gaillard, Sacha Mattei et Louan Deniel. Réalisée par Vivian Le Cuivre et à la technique ce matin, c'est Grégory Wallon. Pour tenter d'expliquer l'acte d'écrire, notre invité pour ce troisième épisode de notre série Les écrivains racontent le monde cite Henri Michaux. J'écris pour me parcourir, peindre, composer, écrire, me parcourir, là est l'aventure d'une vie. Pour Kauter Adimi, se parcourir, c'est rouvrir des boîtes scellées et cachées au fond d'un puits de noirceur. C'est faire remonter les souvenirs d'enfance de la décennie noire en Algérie et les mêler aux couleurs de la peintre algérienne Baya dans un récit paru chez Stock. Dans la collection Ma nuit au musée, La joie ennemie.
À 12h35 exactement, le samedi 6 août 1994, nous atterrissons sur le tarmac de l'aéroport d'Alger, à Maison-Blanche. C'est un retour définitif, explique mon père au douanier éberlué. Définitif. Le mot est posé. Il sera rabâché à de nombreuses reprises durant nos premières années en Algérie. Mes parents nous le répéteront à chaque vague de nostalgie qu'ils voudront étouffer. Il faudra vite, très vite, accepter que notre réalité serait désormais celle-ci. L'effroi. Définitif. Ils le scanderont avec fermeté, parfois avec impatience, le plus souvent avec inquiétude. Devant notre incompréhension d'être jetés au milieu d'une guerre, devant notre colère en découvrant l'arnaque, l'absence du soleil et de la mer. Oui, définitif, malgré la trouille totale et absolue, la trouille violente qui ne me quittera plus et avec laquelle je devrais me résoudre à apprendre à vivre.
Quand Kauter Adimi arrive à l'aéroport d'Alger, l'année de ses 8 ans, la première chose qu'elle voit, ce sont des cadavres de jeunes soldats, alignés les uns à côté des autres, bien ordonnés sur le sol carrelé, des silhouettes immobiles enveloppées dans des sacs mortuaires kaki. Elle devine sous la toile grossière la rigidité des corps, les membres brisés et les pieds chaussés de bottes noires. Sa mère lui couvre les yeux avec les doigts, murmure des « chut ». Mais ce sont des chutes faiblards et elle sait que c'est trop tard pour nous protéger de la violence et qu'à cet instant, notre enfance s'achève. Depuis 4 ans, la petite fille, ses deux frères et ses parents vivaient à Grenoble où leur père avait décidé de les installer, le temps pour lui de terminer ses études. Mais en 1994, alors que les Algériens, quand ils le peuvent, fuient par milliers les crimes des islamistes qui se vengent alors de l'annulation du premier tour des législatives, la famille de Kauter Adimi, elle, fait le trajet inverse dans un avion d'Air Algérie quasiment vide. Plus de 20 ans plus tard, devenue écrivaine, Kauter Adimi laisse ressurgir en elle les souvenirs de ses années noires et ce sont les couleurs de la peintre algérienne Baya qui l'aideront à sortir de la grande nuit. Bonjour Kauter Adimi.
Bonjour.
Quand vous passez une nuit entière à l'Institut du Monde Arabe à Paris, à l'invitation des éditions Stock pour leur collection Ma nuit au musée, on est la veille de l'ouverture de l'exposition de la peintre Baya en novembre 2022. Et si les gardiens vous observent cette nuit-là sur leurs écrans, ils voient une silhouette qui ne tient pas en place, ils voient une jeune femme qui fait les 100 pas. Qu'est-ce que vous cherchez cette nuit-là ?
Alors, ce que je ne cherche pas, ce sont mes souvenirs et c'est mon histoire. Parce que je ne viens pas pour raconter les années 90. Initialement, je viens raconter Baya. Donc, ce que je viens chercher, c'est Baya. Ça fait presque 10 ans que je tourne autour de ce texte sur la peintre. Et cette nuit-là, j'ai la grande joie, effectivement, de dormir au milieu des toiles de Baya dans une exposition assez hors norme, assez incroyable des toiles de Baya, mais aussi des archives, des sculptures, des dessins, etc. Et j'arrive à la fois en me sentant la personne la plus chanceuse du monde, comme je pense à peu près tous les auteurs lorsqu'ils arrivent pour cette fameuse nuit au musée, et en même temps avec une inquiétude parce que, à l'inverse de mes précédents livres, c'est une commande que j'ai acceptée et qui dit commande, dit doit être honorée. Et donc avec une espèce d'obligation de réussir à sortir de cette nuit avec un texte, ou en tout cas avec une ébauche de texte.
Et c'est pour ça que vous faites les 100 pas, et si les gardiens vous voient, peut-être qu'ils ne devinent pas, écrivez-vous, qu'un texte se cherche, qu'il lutte pour se former, qu'il vous échappe dès que vous tentez de le saisir. Ils ne doutent pas qu'écrire exige de vagabonder, chaque pas déplie une phrase. Physiquement, vous êtes dans le sous-sol de ce musée parisien, même le deuxième sous-sol, mais votre esprit a déjà traversé la Méditerranée et s'efforce aussi de reconstituer une scène que vous avez vécue dans une petite voiture blanche, celle de votre père, le lendemain de votre retour en Algérie en 1994. Mais d'abord, Kaouter Hadimi, il y a tous les souvenirs plus évidents, les choses que vous connaissez, qui n'ont pas nécessité que vous alliez les chercher à la fois au fond de vous-même et dans l'étoile de Baïa. Alors commençons par le début de cette histoire, ou un début possible. Pourquoi votre père, né en Algérie et qui a vécu jusqu'à ses 36-37 ans, décide de reprendre ses études à cet âge-là, et pourquoi à Grenoble ?
Mon père a toujours énormément aimé étudier. Je pense que c'est la grande histoire de sa vie, les études. Il est né en 53 dans un village proche de Sétif, dans une famille très engagée pour l'indépendance de l'Algérie. Et c'est quelqu'un qui a donc la chance d'aller à l'école parce que en 62, au moment de l'indépendance, et donc à peu près en 63, il a 10 ans et il est assez jeune et encore assez petit pour pouvoir rentrer à l'école, contrairement à presque tous ses frères et sœurs. Donc c'est l'un des seuls de la famille avec un autre de ses frères, mon oncle qui est né juste avant lui. Et les deux sont les seuls à pouvoir aller à l'école. Et c'est très lié, je pense, à l'indépendance de l'Algérie, au fait d'être algérien, d'avoir une citoyenneté, puisqu'il faut rappeler qu'avant l'indépendance, les Algériens sont considérés comme des musulmans, mais non pas comme des citoyens français, ils sont indigènes. Et donc, à la fois, mon père devenait algérien avec une citoyenneté, et en même temps, ça s'accompagnait avec la possibilité d'aller à l'école. Et il l'a vécu comme une grande chance et comme un émerveillement qui n'a jamais cessé, encore aujourd'hui, et tout le temps le nez dans les livres. Et il rêvait d'être journaliste. Et donc, je le raconte dans le livre, il arrive à Alger, son grand frère, qui lui n'a pas fait d'études, essaie de le convaincre de faire médecine, parce qu'il pense que médecin, c'est un métier assez utile. Et mon père, lui, qui est quand même très pétri par beaucoup de, je pense, de discours nationalistes, patriotiques, hein, c'est l'Algérie des années 70, le panafricanisme, les années boumédiennes, etc. Lui veut être journaliste, donc étudie le journalisme, mais pour payer ses études, il n'a pas un sou en poche, il va accepter un contrat que l'armée lui propose en lui disant, on payera 6 ans d'études, un peu plus, enfin la licence et le magistère à l'époque, et tu seras considéré comme militaire, enfin fonctionnaire, je ne sais pas très bien quel statut il pouvait avoir. En tout cas, tu seras payé tous les mois et donc tu pourras vivre et étudier pendant 6 ans. Et en revanche, à la fin de ces études-là, tu dois revenir et tu dois travailler. Tu devras en tout 19 ans plus les 6 ans donc d'études. Et donc il ne reprend ses études que par un coup du sort en fait, c'est qu'il s'entendait pas du tout avec son chef. Et que donc il demande à quitter Alger pour retourner initialement à Sétif avec les 3 enfants qu'il avait et sa femme. Et son chef va lui proposer d'aller plus loin et de partir à l'étranger.
De partir à Grenoble, Saint-Martin-d'Hères précisément, faire des études. Pourquoi pas Grenoble, il y a des montagnes, vous dit-il.
Il y a des montagnes. Mon père nous dit qu'il y a des montagnes. Et il voulait qu'on vive à côté des montagnes car l'air est réputé plus pur.
Donc vous quittez l'Algérie où, dans les années 80 déjà, l'islamisme commençait à prendre ses aises avec la naissance du FIS, le Front Islamique du Salut, ce nouveau parti politique, des mosquées qui pallient les manquements de l'État, des cassettes audio qui circulent, qui viennent d'Arabie Saoudite ou d'Égypte, où on apprend ce qu'est le vrai islam, celui qui n'aime pas les jupes courtes, les cheveux au vent, écrivez-vous, le rire des femmes, les corps qui dansent et les gens qui rêvent. Donc vous vous installez à Grenoble en août 90, quelques mois après la victoire du FIS aux élections communal, mais vous rentrez parfois en Algérie pour les vacances d'été, et notamment l'été 92 à Annaba, au nord-est sur la côte. On est à quelques kilomètres d'où est assassiné une grande figure de la résistance algérienne pendant la guerre, exilé au Maroc, Mohamed Boudiaf, qu'on venait d'appeler pour prendre les rênes d'une Algérie en plein chaos.
حنا نشوفوا هذا الدول اللي فاتتنا باش فاتتنا فاتتنا بالعلم والدين تاع الاسلام.
La sidération dans cette salle en Algérie.
C'est l'archive où il a été... D'ailleurs, ce qu'il dit juste avant d'être tué, c'est intéressant. Parce que ses derniers mots sont « Et les nations qui nous ont dépassés, avec quoi nous ont-elles dépassés ? Avec le savoir. » Et c'est sur. Et il dit, et l'islam, et c'est là où il est assassiné.
Par son garde du corps devant les télévisions. Mohamed Boudiaf donc vient de mourir cet été 92. Mmh. Mais de quoi se rappelle la petite fille de 6 ans que vous êtes, d'une affreuse peluche rouge qu'elle venait de recevoir pour son anniversaire?
Oui, en fait, on rentre en 92 dans une Algérie en pleine sidération par l'assassinat de Boudiaf, qui est une figure adorée des Algériens. Très, très respecté, très estimé, qui est quelqu'un qui vivait au Maroc et qu'on va chercher pour lui demander de prendre la tête du pays qui est en pleine crise. Et donc, effectivement, on arrive en 92. Je l'explique parce que ça dit dans quel état d'esprit sont mes parents qui, eux, effectivement, comprennent la situation, alors que mes frères et moi, et puis nos cousins et cousines qui nous rejoignent cet été-là à Naba, on est plutôt dans un été assez joyeux et on m'offre cette affreuse peluche. Et ça, c'est un marqueur, en fait, la peluche, parce que c'est une affreuse peluche, c'est un affreux anniversaire. Mon frère m'arrache la peluche des mains, la tête s'envole. Enfin, et en fait, tous ces marqueurs de l'enfance, c'est ce qui vient me permettre de me rappeler le contexte et ce qui se passe en dehors de ces moments de l'enfance qu'on conserve, nous, mes frères et moi.
Et que peut le tumulte du monde face à l'injustice d'une peluche déchirée? Écrivez-vous, Kaouter Hadimi, vous ne remarquez pas alors que vos parents ont basculé du français à l'arabe lorsqu'ils chuchotent avec leurs amis. Vous avez beau tenter de vous souvenir aujourd'hui, je suis certaine que nous ne faisons pas attention au ciel qui se couvre, écrivez-vous, à notre monde qui déjà vacille. Et néanmoins, vos parents décideront de rentrer définitivement en Algérie 2 ans plus tard. Votre père pense qu'il le doit à l'armée, vous nous l'avez expliqué, qui a financé ses études. Est-ce que des amis à l'époque en France ou la famille en Algérie tentent de les en dissuader?
Je crois que tout le monde tente un peu, mes maîtresses d'école primaire viennent un jour taper à la porte et essayent de convaincre mes parents de ne pas nous ramener. Nos amis à Grenoble proposent de nous garder, au moins nous les enfants, proposent à ma mère de rester aussi. Mais ma mère ne voulait pas non plus rester, et mes parents voulaient rentrer pour plein de raisons. Effectivement, il y avait un contrat honoré, mon père n'aurait jamais pu se regarder en face s'il ne l'avait pas honoré. Il y avait une inquiétude pour nos proches et cette inquiétude, elle était si forte qu'ils vivaient très mal d'être loin en fait d'eux, de ne pas être là où ça se passait. Et puis aussi, je pense qu'il y a quelque chose, c'est qu'ils n'aimaient pas l'idée que nous, on grandisse comme des immigrés en France. C'est la France des années 90, c'est Grenoble, c'est un pays où il y a beaucoup de violences policières, c'est un pays qui beaucoup de racisme. Et mes parents ne voulaient pas, ça c'est quelque chose de très fort chez mon père en tout cas, ils ne voulaient pas qu'on puisse nous dire « vous n'êtes pas chez vous ». Et ils voulaient nous donner la possibilité de nous sentir chez nous quelque part, et c'est ce qu'il fait avec ce retour en Algérie. Il y a une multitude de raisons, mais le contrat est ce qu'il a beaucoup mis en avant, et c'est un petit peu ce que je suis allée chercher dans ce livre avec les conversations que j'ai eues avec mon père. C'est que moi, j'ai toujours soupçonné que ce fameux contrat n'était qu'une des raisons, et qu'il y avait d'autres raisons.
Le contrat avec l'armée, vous voulez dire?
Oui, il y avait d'autres raisons, il y avait d'autres possibilités. Effectivement, pour mon père, c'était très important, je le comprends. Mais je pense que mon père voulait quand même, surtout revenir vivre en Algérie, c'était chez lui. C'est un gamin, c'est un gamin qui a grandi dans la guerre d'Algérie, qui a connu le colonialisme. Sa famille a connu vraiment et la pauvreté et la violence du colonialisme. Je raconte quelques histoires des années 50 de mon père. Donc, il voulait rentrer chez lui et il en avait marre, je pense, au bout de 4 ans. Qu'on lui explique qu'il était un immigré, qu'il n'était pas chez lui, qu'il n'était pas le bienvenu, et il ne voulait pas ça pour ses enfants.
Il veut vous offrir un pays. Et pendant vos premières années de retour en Algérie, vous gardez un lien avec votre amie grenobloise Joséphine. Vous lui écrivez des lettres que par définition vous n'avez plus, mais vous avez conservé ces lettres à elle. Est-ce qu'elles vous disent quelque chose, ces lettres, de ce que vous taisiez à l'époque, de ce que vous lui racontiez, et surtout de ce que vous ne lui racontiez pas?
Ça me semble incroyable. J'avais conscience à ce moment-là déjà qu'on était quasiment dans deux mondes différents, dans deux sphères différentes. Et donc, elle me raconte ce qu'est une vie normale, en fait, et ce qui n'est donc plus ma vie par définition, puisque moi, j'ai une vie de couvre-feu, j'ai une vie d'attentat, j'ai une vie d'inquiétude permanente, j'ai une vie de mort, quand elle a une vie de première boum et de premiers amours.
Vous ne lui dites rien de l'effroi de vos nuits, des loups, écrivez-vous, que j'entends hurler et qui n'étaient peut-être pas des loups. Il y a ce petit carnet où vous inscrivez le nombre de mitraillettes que vous voyez tous les jours, un trait pour chacune. Il y a ces dizaines de photos d'identité rectangulaires en noir et blanc ou en couleur sur les murs de la ville. Ce sont les visages des terroristes recherchés, principalement des hommes, mais aussi quelques femmes. Et puis il y a des bribes d'images et de sons que vous suivez sur l'écran de la télévision que regardent vos parents. Alors eux vous croient endormis, mais vous êtes cachés avec votre frère dans le couloir et vous entendez par exemple ceci.
L'Algérie, écartelée par la violence, a occupé le grand amphithéâtre de la Sorbonne de sa douleur, mais aussi de la solidarité de nombreux intellectuels pour leurs collègues menacés, intimidés, tués par des islamistes en Algérie.
La naïveté, si naïveté il y a, est à la mesure de l'anxiété que j'éprouve, avec beaucoup d'autres, devant la menace de la guerre civile dans ses formes les plus horribles.
C'est un colloque qui a été organisé à la Sorbonne en février 1994 et que vous suivez sur le petit écran de la télévision de vos parents, Kaouter Hadimi, ce discours de Pierre Bourdieu. Vous vous le rappeliez mot pour mot ?
Non, pas du tout, je ne me le rappelle pas mot pour mot, mais on s'était fait disputer assez violemment ce que mes parents nous avaient trouvé dans le couloir ensuite. Donc je me rappelais d'un colloque, je me rappelais de quelques phrases, mais je suis allée le chercher quand j'écrivais ce livre et j'ai re-questionné mes parents, qui eux se souvenaient de ce qu'il en était. On regardait beaucoup la télévision de mes parents, enfin de ce que regardaient mes parents depuis le couloir. On a regardé mille et une, enfin des films, des séries, etc. Et parfois, souvent aussi, les informations qu'ils essayaient de nous cacher, parce que c'était souvent des informations assez violentes sur ce qui se passait en Algérie.
Donc il y a ces mots que vous êtes allé retrouver, bien sûr toutes les archives vous y aident, mais ce discours de Pierre Bourdieu vous avez marqué. De ces années-là, il y a aussi beaucoup de blancs ou des noirs, c'est selon, puisqu'on parle d'une grande nuit, en tout cas des souvenirs qui sont échappés à une mémoire qui a fait le tri, et c'est cela aussi qui va se démêler lors de cette nuit que vous passez bien des années plus tard, en novembre 2022 à l'Institut du Monde Arabe, la veille de l'ouverture d'une grande exposition consacrée à la peintre Baïa. Alors dans vos allers-retours entre les tableaux et le lit de camp que votre éditrice Alina a monté pour vous, ce lit de camp déjà traîné d'un musée à l'autre et dans lequel on dormit ou essayait de dormir parce qu'il grince d'autres écrivains avant vous. Qu'est-ce que vous savez, vous, de Baïa, à ce moment-là? Vous nous disiez tout à l'heure que vous aviez déjà beaucoup travaillé sur elle.
C'est une peintre que j'ai découvert dans les années 2000, début des années 2000. De mémoire, et sur laquelle j'ai toujours eu envie de travailler et d'écrire. J'ai beaucoup collecté d'archives, d'informations autour d'elle. Et il s'est toujours passé quelque chose qui m'a empêché d'écrire ce livre-là. Il y a toujours eu d'autres livres avant, d'autres livres qui nécessitaient que de passer avant. Et en fait, j'avais jamais vraiment creusé pourquoi Baïa avait dû attendre. Et en fait, Baïa a attendu parce que j'ai découvert Baïa à la fin des années 90 et elle a été un contrepoint lumineux aux années 90. Elle a été la redécouverte de la couleur. Quand je pense aux années 90 en Algérie, c'est des images qui sont toujours avec un espèce de filtre marron, un espèce de filtre en noir et blanc. Alors même, c'est toujours des images où il y a peu de couleurs et peu de joie parce que et beaucoup de silence. C'est assez étrange, mais ce sont des années de silence parce qu'il ne faut pas trop montrer une quelconque différence, il ne faut pas montrer trop d'émotions dans la rue, parce que vous ne savez jamais s'il n'y a pas un terroriste en embuscade, vous ne savez pas s'il n'y a pas un attentat qui se prépare. Donc la rue est un lieu de danger, c'est un lieu où il n'y a pas de couleur, c'est un lieu où il faut faire vite, c'est un lieu de passage, c'est pas un lieu de déambulation. Et quand je découvre Baïa, je découvre d'abord une femme algérienne, une femme peintre, une femme qui a eu un parcours en tant que peintre assez unique et exceptionnel. On rappellera que les Algériens, jusqu'à assez tardivement, hein, jusqu'à à peine quelques années avant la fin de l'indépendance, avant la fin de la colonisation, n'avaient pas le droit d'étudier les arts, que c'était réservé aux Français. Et il n'y a pas, dans l'histoire de la colonisation, il y a quelques peintres algériens hommes qui souvent sont devenus peintres par accident, au sens de ils ont fait la bonne rencontre, mais il n'y a aucune autre peintre musulmane en dehors de Baïa, pendant toute la colonisation. C'est incroyable quand même. Et je découvre ces peintures qui sont des tableaux, souvent des portraits de femmes, et avec un travail de la couleur qui est quasiment impossible, je pense, à égaler, et une technicité qui, moi, m'a complètement bouleversée. Et donc, je découvre, et ça me bouleverse parce que c'est la fin des années 90. Et pour raconter ce bouleversement, il fallait raconter les années 90. J'ai mis beaucoup de temps à les raconter, ces années-là.
Cette peintre qui est née en décembre 1931, oui, dont les, faut voir ces tableaux à Baïa, les couleurs, j'allais dire, sont très vives. Vous les qualifiez de retenues ?
Ils sont exposés en ce moment, alors pas tous, mais il y a une exposition à la Mosquée de Paris pour les chanceux qui sont à Paris.
Qu'est-ce qui a pu lui inspirer toutes ces couleurs à Baïa, à elle dont le père mourut jeune, à elle dont la terrible grand-mère remaria de force la mère de Baïa à un homme qu'elle n'aimait pas, puis la mère de Baïa est morte à son tour quand Baïa était encore toute petite. D'où viennent ces couleurs ?
Je crois qu'ils viennent d'une résilience et d'une force que Baïa avait, en plus d'univers très concret. Est-ce qu'elle a travaillé dans des fermes françaises extrêmement belles, avec beaucoup de fleurs ? Elle a vécu en Kabylie, en lien avec des couleurs assez vives, qui sont les couleurs des robes kabyles. Donc, elle a beaucoup été autour de la couleur, même dans des moments assez sombres. Après, je pense à titre personnel qu'elle avait une résilience, un espoir et une joie assez unique.
Des couleurs qui lui ont sauté aux yeux un jour où, petite, elle assistait à une fête aussi, c'est parmi les choses que vous imaginez. Et les couleurs de toutes ces fleurs, les roses, les œillets, les oiseaux de paradis des fleurs d'Afrique du Sud que les Farges, propriétaires d'une ferme où elle travaille alors, quand elle est petite ou jeune, ont réussi à planter en Algérie. Et en 1947, pendant qu'en Algérie, les mouvements d'indépendance s'organisent, les massacres de Sétif en 45 ont lancé une sorte de compte à rebours vers la guerre, Baïa expose à Paris.
C'est le contraire même du classique qui inspire la jeune artiste berbère Baïa. Présentée par Sikadour Ben Gabri, cette fillette algérienne expose dans une galerie d'art de Paris de curieuses peintures décoratives. Elle fait aussi des modelages dans un style voisin des sculptures précolombiennes. L'originalité de la jeune Baïa, c'est qu'elle peint d'instinct, sans avoir jamais appris, sans aucune culture artistique et avec sa seule et surprenante personnalité. Les enfants prodiges se multiplient depuis quelque temps. Celle-ci n'est pas une des moins étonnantes.
C'est une archive Gaumont-Pathé, les actualités cinématographiques produites à l'époque par l'Éclair Journal. Donc on est en 47, une curieuse peinture figurative, il ne peut pas s'empêcher, le présentateur. Et elle est toujours très effacée, Baïa, on l'entend. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, vous qui avez parcouru des dizaines d'archives ? Est-ce que vous avez entendu le son de sa voix, notamment dans ces époques-là ?
Je ne suis pas certaine d'avoir entendu. Si, il y a une archive où on entend sa voix, mais elle est effacée. Enfin, elle est effacée dans ce milieu-là. Et ce serait dur de ne pas l'être. Alors déjà, ce n'est pas une petite fille, c'est plutôt une jeune fille qu'une petite fille. Elle doit avoir 15-16 ans quand même. En fait, la réalité, c'est que c'est affreux. Ce milieu est affreux. Hein. C'est un milieu très bourgeois, très parisien. Elle a pris l'avion pour la première fois. Elle arrive pour exposer ses œuvres. On serait impressionné à moins. Elle est dans la plus grande galerie parisienne. Elle est dans la galerie Macht. Elle se retrouve avec des journalistes qui se gaussent, qui se moquent, qui à la fois la titillent, la taquinent, etc. Elle est envahie de gens autour d'elle, qui, et puis une grande partie, sont là, enfin, n'y connaissent rien à l'art et ça ne les intéresse pas particulièrement, mais il faut être vu, c'est la grande exposition de l'année.
Et prendre le buffet.
Et il faut prendre le buffet. Puis il faut acheter peut-être une sculpture ou deux pour dire, oh là là, qu'est-ce que c'est joli, regardez, c'est très oriental, c'est algérien. Donc, en fait, il y a je le dis parce que je l'ai vécu une tonne de fois, en fait, ces dernières années. C'est assez dur, en réalité, de pas se sentir très, très seul dans ces moments-là. Je pense que c'est surtout ça qui se passe pour elle, en fait. Il faut aussi se rappeler le contexte dans lequel elle vient. On est après Sétif et après les massacres. Elle a été envoyée en France avec beaucoup de demandes de se tenir à carreau, entre guillemets, qu'il fallait qu'elle était là pour représenter les Algériens, donc il fallait aucun faux pas. Donc elle arrive quand même avec une mission, celle de faire attention D'ailleurs, le cadi, qui est un peu le juge musulman, demande à Camus de passer, de vérifier que tout va bien, parce qu'il a peur d'une machination contre la jeune femme.
Donc Albert Camus fait des allers-retours pour
s'assurer
que tout va bien.
Albert Camus passe à l'exposition, et puis écrit une très belle lettre, d'ailleurs, au sujet de Baya, qui il la surnomme la princesse au milieu des barbares. Et au milieu des barbares, c'est vraiment ce soir-là. Pour lui, tous ces gens-là sont des barbares. Et donc, je ne suis pas sûre qu'elle ait été si effacée. Je pense que c'est une vraie artiste, une artiste dans l'âme. Je pense qu'elle aimait réellement peindre, sculpter. Elle l'a fait toute sa vie. Et je pense que c'est ça qui l'intéressait, que la presse expliquait son art, expliquait pourquoi, comment. C'était pas forcément... Elle a donné très peu d'interviews, 2 ou 3 de mémoire. Je ne sais pas s'il faut la qualifier d'effacée. Je pense que c'est... On l'a qualifiée de beaucoup de choses. Bien malgré elle, mais je vois plutôt quelqu'un qui est assez forte pour ne pas s'intéresser à tout ce cirque autour d'elle.
Ce qui est une façon d'être effacée. En tout cas, je ne portais pas de jugement.
Oui, non.
Que je l'ai très peu entendu et très peu vu, et que ça donne l'impression que, oui, qu'elle surplombe un petit peu tout ce qui est en train de se passer autour d'elle.
Elle qui
apparaît dans des tenues traditionnelles qu'elle a voulu en violet, or, vert, blanc. C'est elle qui choisit les couleurs. Qu'est-ce que vous, Kauter Hadimi, cette nuit-là de novembre 2022, dans le deuxième sous-sol de l'Institut du Monde Arabe à Paris, qu'est-ce que ça vous apporte de rester à la fois dans les couleurs des tableaux de Baya, mais aussi dans les contours de sa vie? En quoi est-ce que c'est un point d'appui pour vous, pour votre écriture?
La réalité, c'est que initialement, c'était le projet d'écrire un livre sur Baya. Ça devait être un livre entièrement sur Baya, ça devient un livre sur moi. C'est pour ça que c'est intéressant, les commandes, parce qu'on ne sait jamais très bien où elles nous emmènent. Mais en fait, cette nuit-là, ce qui se passe, c'est surtout que j'ai une photo de mes frères et moi sur la plage à Annaba en 92 dans un carnet, et que cette photo, elle me pollue un peu. Au lieu de m'intéresser aux toiles, au lieu de m'intéresser aux archives, qu'en réalité je connaissais plus ou moins, parce que je les avais déjà vues aux archives d'outre-mer à Aix-en-Provence, en réalité, cette photo, elle m'interpelle. Ces années 90 sont avec moi. J'ai l'impression d'avoir pris un boulet avec cette photo qui m'alourdit et qui me pollue. Et donc, j'essaye d'aller vers Baya pour éviter d'aller dans les années 90, parce qu'en réalité, c'est trop de souffrance, les années 90, et j'ai pas très envie d'y retourner. J'ai pas envie d'ouvrir ces cartons-là. Je finis par le faire, presque malgré moi, presque obligée de le raconter. Parce qu'à un moment, je suis obligée de raconter pourquoi Baya. C'est la vraie question, pourquoi Baya? Pourquoi j'avais envie de raconter Baya? J'ai envie de raconter Baya parce qu'elle est celle avec qui tout redémarre, tout recommence enfin, la vie reprend. Et pour expliquer que la vie reprend, il a bien fallu raconter que la vie s'était arrêtée. La vie s'est arrêtée dans les années 90.
Et la vie s'est arrêtée précisément le 7 août 1994. C'est un souvenir qui a commencé à remonter en vous lors d'une précédente nuit auprès des œuvres de Baya au musée Picasso en 2018. C'était une nuit qui n'avait fécondé aucun texte parce que vous vous étiez senti submergé, notamment après être tombé nez à nez en pleine nuit sur le tableau de Picasso, La mort de Casa Gemma. C'est un tableau qui figure un ami de l'artiste qui s'est suicidé après, je crois, avoir tué sa femme. Avoir tenté de tuer sa femme, c'est dans la période bleue de Picasso. Ça figure un gisant et c'est tout ce que vous voyez. Vous, quand vous tombez dessus, vous ne le reconnaissez pas tout de suite, et ça vous fait remonter ce souvenir-là. Vous avez laissé à l'époque, en 2018, dans votre carnet, 4 mots en suspens, et puis le chaos. Quels mots vous reviennent un peu plus tard à Lima pour écrire la suite de cette phrase?
Mais en fait, je fais un refus d'obstacle en 2018 et je refais un refus d'obstacle à Lima en 2022, mais je vais y retourner à plusieurs reprises. Le 7 août 1994, on prend la route pour aller voir mes grands-parents, pour aller s'installer chez nos grands-parents, puisqu'on revient en Algérie, on n'a pas où vivre pendant quelques mois. Et donc on va vivre chez nos grands-parents, en tout cas c'est le projet. Et c'est une route très dangereuse, c'est la route de l'Est qui va d'Alger à quelques centaines de kilomètres vers l'Est. Et c'est une route qui est, on le sait, dangereuse parce qu'il y a beaucoup de groupes terroristes un peu partout disséminés dans le coin. Et ce jour-là, manque de peau absolue, puisqu'on est en Algérie depuis 24 heures, on tombe sur un barrage de terroristes, des groupes islamiques armés. Et on est dans la voiture avec mon père qui conduit, ma mère est devant avec mon plus jeune frère qui vient de naître, qui a à peine un an. Elle l'a sur les genoux. Mes deux autres frères sont à côté de moi. Chacun a pris une portière et une vitre, et moi je suis coincée au milieu. Et il reste 2-3 voitures. Alors il faut s'imaginer comment c'était à l'époque. Donc on est en août, il fait très chaud. Et c'est un barrage qui est dans les deux sens. Donc on avance très doucement. Et il reste 2-3 voitures devant nous avant le barrage. Et puis mon père voit les hommes qui tiennent le barrage, qui sont vêtus de tenues militaires. Et il dit à ma mère, c'est un faux barrage. Et alors un faux barrage, pour ceux qui ont la chance de ne pas savoir ce que c'est, mais tous les Algériens, eux, savent. Un faux barrage, c'est un barrage initialement tenu par des militaires, des gendarmes, des policiers, peu importe. Et des terroristes islamiques arrivent, tuent ces personnes et prennent leurs vêtements, leurs uniformes, ils les passent et ils reprennent le barrage. Ce qui fait qu'on continue à croire que c'est un barrage classique, qu'on passe, on donne les papiers, on explique qui on est, on répond aux questions, et après ils décident qui peut passer et qui ils emmènent plus loin pour les égorger. Et donc, mon père, lui, comprend en fait que c'est un faux barrage. Il comprend parce qu'en fait, ils sont très mal habillés, ils sont mal attifés, ils ont mal boutonné leur veste. Il y en a un qui a des cheveux de teint au henné, ce qui est interdit dans l'armée. Il y en a un qui porte une boucle d'oreille, là encore, c'est pas permis dans l'armée. Donc, il comprend en fait que c'est pas un vrai barrage et qu'il est en train de nous mener vers des terroristes. Ma mère est journaliste, mon père est militaire, et nous sommes 3 enfants derrière qui ne parlons plus arabe à ce moment-là. On va réapprendre après. Et donc, il dit à ma mère, c'est un faux barrage. Et à partir de là, effectivement, c'est un peu le chaos. Parce que ma mère est sûre qu'elle va mourir égorgée, qu'on va être égorgée. Et mon père, lui, n'a pas d'autre choix que de nous emmener vers faire ce barrage-là.
Et il sort de la voiture, il sort armé et...
Et à un moment donné, ma mère lui demande de faire demi-tour, mais il ne peut pas faire demi-tour. Elle nous demande de faire semblant de dormir, ce qui nous excite. Donc on commence à lui demander pourquoi. Elle s'énerve, elle est en panique. Ma mère panique totalement. Mon père lui demande de se taire, parce qu'il lui dit, tu vas nous faire tuer si tu continues comme ça. Et il sort une arme de sa poche, il continue de conduire d'une main. Et puis à un moment donné, il tire le frein à main violemment et il sort de la portière avec son arme en courant. Ma mère dit cette phrase mythique. Elle dit « N'y va pas, tu es en congé ». Et c'est cette phrase qu'on retient, nous, enfants, plus que d'ailleurs le faux barrage, la voiture. Et c'est ce qui fait qu'on n'a pas oublié cet événement.
Il est en congé alors qu'il est militaire, et c'est justement parce qu'il a vu au loin une autre patrouille de vrais militaires, ceux-là qui s'approchaient du faux barrage pour intervenir, qu'il se sent, il sent que c'est le moment pour lui de venir en aide à ses collègues, et il sort et vous sortirez tous indemnes. Vous n'avez pas tellement réussi à resituer précisément où votre petite voiture blanche a été stoppée ce matin-là. Vous étiez loin de la mer, vous savez que vous aviez laissé derrière vous Boumerdès, que vous n'étiez pas encore arrivé à El Achir. Ça fait 178 km de possibilité et d'incertitude. Et à votre père, vous lui avez envoyé votre manuscrit en espérant qu'il comblera les trous. Il vous répond simplement, page 119, paragraphe 3, ligne 10, il y a une coquille, je n'ai rien à ajouter, bonne chance pour ton livre. Kaouter Hadimi, vous nous avez déjà raconté combien votre père aujourd'hui et vos parents essayent à la fois de... Bien sûr, il n'y a pas de... J'ai pas cru comprendre qu'il y avait un énorme tabou autour de ces années-là. Néanmoins, on continue, la vie continue, on passe à autre chose. Vos parents vous ont transmis quelque chose qui n'est sans doute pas sans lien avec votre désir aujourd'hui d'écrire des livres, c'est leur amour des livres. Quel amour des livres vous ont-ils transmis ?
Mon père nous a beaucoup, en tout cas tout fait pour qu'on ait envie de lire et aimer lire. Moi, petite, j'allais à la bibliothèque avec mon père à Grenoble. C'est ce qui a été la grande rupture en 94. Alors au-delà de la guerre et de la langue, puisqu'on a eu un grand conflit avec mon père sur la langue. Il voulait absolument qu'on fasse nos études en arabe, parce qu'il a gagné. Il a eu beaucoup de victoires, mon père, à peu près, dans ces années-là. Et effectivement, on a basculé en arabe avec mes frères, et j'en suis très heureuse aujourd'hui. Mais la rupture avec le français est très rude en 94, avec la rupture avec ma vie normale aussi, et la rupture avec cette espèce de tradition qu'on avait d'aller à la bibliothèque toutes les semaines. On ne va plus à la bibliothèque en 94, c'est trop risqué pour mes parents de nous faire sortir. Et donc, je commence à écrire comme ça. J'écris parce que je n'ai pas de livre. Pendant un an, on va vivre dans un appartement qu'on sous-loue à quelqu'un, et en fait on n'a pas d'affaires, on n'a pas grand-chose et on n'a pas de livre. Et donc je commence à écrire à ce moment-là en me disant que je vais écrire un livre pour pouvoir le lire parce que j'ai soif de lecture. Et mes parents nous ont effectivement transmis ça. Mais je reviens sur la question du tabou. Moi, je ne suis pas d'accord avec ce qu'on dit sur les années 90 en Algérie, cette grande question du tabou. D'abord, ce n'est pas tout à fait vrai dans le sens où il y a eu énormément de production et littéraire et cinématographique sur les années 90, pendant les années 90 et à la fin des années 90. Je crois surtout qu'il y a eu énormément de douleur pour tous les Algériens sur ce sujet-là, et que à la fin au début des années 2000, on avait une telle volonté de vivre autre chose, une telle envie de vivre tout court en réalité, qu'on a eu envie d'autres histoires et d'autres de ne plus nous tourner là-dessus. Mais vraiment, je crois que c'est une question plus de douleur que de politique. Et aujourd'hui, c'est devenu une question politique. Mais ça a longtemps été plus, alors peut-être un tabou au sens où la peine était trop forte. Mais comme elle l'a été dans les années qui ont suivi l'indépendance, moi, mes grands-parents ne nous ont jamais parlé de la guerre d'Algérie, parce que là encore, la douleur était trop forte. Je crois qu'il y a des questions de génération qui doivent grandir et s'approprier avec le temps ces sujets-là.
On va en parler aussi avec Morgane Jouaret tout à l'heure dans le Focus, dans quelques instants, Kaouter Adimi. La douleur était trop forte, la joie a repris le dessus, me semble-t-il. C'est ce qui transparaît quand même dans votre livre, même si beaucoup de pages sont très sombres. La joie, non pas la joie ennemie, le titre de votre livre, c'est celle qu'auraient eu les terroristes à vous voir trembler. C'est la joie sombre de la haine des autres et de soi-même. La vraie joie, vous l'avez retrouvée une première fois dans les yeux des gardiens d'un musée à Alger, une joie égale à la vôtre. C'était votre première rencontre avec Baïa, enfin une des premières rencontres avec Baïa, et vous serrez dans les bras, vous êtes avec deux amis. Dans ces moments où la joie déborde à flot si large qu'il faut la jeter aussi dans le cœur des amis et de ceux avec qui vous êtes. C'est en quelle année que vous visitez ce musée ?
2008 ou 2009.
C'est encore après les derniers attentats dont auxquels vous avez réchappé. Voilà, donc les années 2000 sont devant vous, la guerre est finie et la joie revient qui avait disparu après vos années notamment à Oran, où loin de la désolation d'Alger, le rail se déversait par les fenêtres à toute heure du jour et de la nuit, le rail et aussi le chabi. Lounès Matoub, chanteur assassiné en 1998, et ce titre, Thierry M. Tadjlet, les islamistes qui traquent ceux qui créent, ceux qui rêvent, ceux qui pensent. Lounès Matoub est l'un des nombreux artistes que vous citez, Kaouter Adimi, dans votre livre La joie ennemie.
Qui a été assassiné effectivement dans les années 90 par les terroristes. Pas le seul, mais il y en a eu d'autres dans le théâtre, dans la musique, dans le cinéma. Et Mustapha Benfodel, qui est un écrivain que j'aime beaucoup, un écrivain algérien, avait eu cette phrase que je cite effectivement aussi dans le livre, en parlant des artistes intellectuels dans les années 90, en disant qu'ils n'avaient plus qu'un seul choix, Paris ou la mort.
l'écrivain Tahar Djaout, le metteur en scène Abdelkader Alula, les chanteurs Cheb Hasni, Lounès Matoub, Cheb Aziz, le directeur du Théâtre National d'Alger, Azzedine Medjoubi et tant d'autres. La décennie noire qui va en réalité bien au-delà d'une décennie. En 2007 encore, Kaouter Hadimi, vous échappiez par miracle à un attentat à Alger contre un bus dans lequel vous n'aviez pas pu monter parce qu'il était plein. Et cette scène-là aussi s'était effacée de votre mémoire. Il y a la mémoire de chacun et il y a la mémoire d'un pays. Et en Algérie, elle reste relativement difficile encore, cette mémoire.
France Culture, Culture Monde, Julie Gacon.
Tous les membres de ma famille, Ashraf, ont été égorgés. La petite fille de 3 ans a été mise à bouillir dans une marmite. Les 3 jeunes filles de la maison ont d'abord été enlevées, puis on les a retrouvées mortes. Nous ne pardonnons pas. 24 personnes tuées. Pardonner, pas question. Nous les connaissons, les terroristes. C'était nos voisins. Il y en a qui sont morts, mais d'autres sont là. Celui qui est venu dans notre village était émir. Maintenant, il est grossiste. Marwan. On le voit tout le temps.
Leurs voisins furent leurs bourreaux. Comment pardonner à ceux qui ont égorgé, fusillé, torturé? Dès 1995, les gouvernements successifs en Algérie ont voulu mettre en place une politique de réconciliation nationale, d'abord pour mettre fin à la guerre civile, puis pour qu'elle ne se reproduise pas. Les présidents Lamine Zeroual puis Abdelaziz Bouteflika ont encouragé d'abord les membres des groupes armés à se rendre, puis les familles des victimes à abandonner leur poursuite. Des mesures dont ces familles, des plus de 150 000 victimes, regrettent qu'elles entravent encore aujourd'hui la mémoire. Bonjour Morgane Joiret.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes docteur en sociologie, autrice d'une thèse soutenue début décembre là cette année, qui interroge les effets de la politique de réconciliation nationale sur les manières de dire et d'interpréter la violence après la décennie noire. Alors, puisqu'il s'agit d'abord de dire, quel mot emploie-t-on en Algérie aujourd'hui pour parler de ce que Kaouter Hadimi appelle la grande nuit?
Je vous remercie pour votre invitation déjà, et j'en profite pour remercier aussi Kaouter Hadimi, que j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter et à lire avant ça. Et d'ailleurs, dans l'ouvrage, on revient sur les mots qui sont employés pour dire la guerre. Et donc, vous parlez de la grande nuit et comment on en sort. En Algérie, j'ai l'impression que le terme le plus employé est le terme de décennie noire, qui permet quand même de décrire la décennie de violence, tout en euphémisant quand même et en restant relativement flou sur ce qui a fait cette décennie. Le terme de période du terrorisme est aussi, je crois, beaucoup employé. Mais c'est vrai que le terme de guerre civile, qui est plutôt mobilisé par les chercheurs, est relativement laissé de côté, voire rejeté, je dirais, par les... En tout cas, c'est ceux que moi j'ai rencontrés en Algérie.
Je pense qu'il y a un sujet là, c'est la langue. C'est en français, mais en arabe, c'est pas ce qu'on utilise. On dit al-hab, on dit le terrorisme.
C'est la période du terrorisme, oui. Ouais.
On dit le terrorisme.
On dit peu la décennie noire.
Ou la tragédie nationale, c'est aussi ce qu'utilisent les officiels.
En arabe, on va dire al-hab.
D'accord. Alors, 20 ans plus tard, les manuels scolaires, est-ce qu'ils en parlent? Comment se fait la transmission de cette mémoire, Morgane Joiret?
Je crois que en tout cas, ce que moi j'ai observé au cours de ma recherche en Algérie, c'est que les manuels scolaires, ils sont plutôt concentrés sur la période de la colonisation et de la guerre de libération nationale, et que c'est cette mémoire-là que la mémoire officielle transmet en principal. Et justement, c'était intéressant de voir comment, chez cette génération que moi je qualifie de génération Bouteflika, donc ces jeunes qui sont nés à la fin de la décennie noire, à la fin des années 90 ou au début des années 2000, et qui n'ont connu finalement comme président que Abdelaziz Bouteflika, et chez elle et eux, c'est intéressant d'entendre comment... Et c'est ce que j'ai beaucoup retrouvé dans le livre aussi, c'est comment cette mémoire, elle est transmise par bribes, en fait, par les souvenirs de l'enfance, les souvenirs de la vie de famille, les souvenirs ordinaires de la vie sous le terrorisme, comme le dit l'une des personnes que j'ai rencontrées, comme qualifie en tout cas cette personne-là. Et je crois que ce qu'il en reste finalement, c'est des bribes. Et d'ailleurs, le Irak a été une temporalité particulièrement intéressante parce que je crois qu'elle a permis à ces jeunes qui n'ont pas cette transmission, en tout cas par l'école, de regarder ce passé avec beaucoup plus de distance et de remettre en ordre en fait les événements.
Le Hirak, cette grande mobilisation populaire de 2019 contre la réélection d'Abdelaziz Bouteflika, alors à l'époque le chef d'état-major de l'armée, Ahmed Gaïd Salah, qui est mort d'ailleurs juste après l'élection d'Abdelmadjid Tebboune, essayait de faire peur en disant que le Hirak c'était le retour de la violence et de la décennie noire dans une forme de chantage à la stabilité. Mais du côté des manifestants, la question du rapport au passé et à la mémoire n'était pas, enfin me semble-t-il, tellement soulevée, comme s'il y avait un consensus que l'urgence c'était pas ça, et il y avait même eu des dissensions au sein du mouvement, puisque certains groupes islamistes avaient rejoint les rangs de la mobilisation.
Oui, c'est justement ce qui peut paraître surprenant, c'est que lorsqu'on la période de donc la période de transition s'ouvre, on entend des appels donc à saisir la justice, etc. Donc moi qui travaille en tout cas sur la décennie noire, je me dis tiens, est-ce que cette séquence-là va être ouverte? Et donc non, on voit que ce qui est revendiqué, c'est les accords d'Évian qui doivent être réouverts. C'est par exemple la corruption, les crimes économiques qui ont été jugés à ce moment-là. Mais finalement, l'unanimisme qui passe par le fait de demander d'abord le retrait d'Abdelaziz Bouteflika, puis le départ du régime. Le fait d'être unanime sur cette revendication-là, elle permet de mettre à distance les formes de les oppositions qui pourraient surgir de ce passé-là. Et donc c'est comme ça que dans la mobilisation, les gens marchent côte à côte quand même. Et pour la première fois depuis le début des années 2000, l'espace social, l'espace public est réinvesti par des personnes qui ne l'occupent que très peu. Et d'ailleurs, en dehors des groupes de victimes, qui elles revendiquent depuis déjà dans la décennie et après la réouverture de la justice, elles réclament la recherche de la vérité, la reconnaissance des violences qu'elles ont subies. Mais en dehors de ces groupes de victimes, je crois que chez les citoyens que je qualifie d'ordinaires, au sens de tout le monde a été touché. Les gens qui ont vécu en Algérie ont été éprouvés par les violences de la guerre. Mais ce que je qualifie de citoyens ordinaires, ce sont celles et ceux qui n'ont pas été éprouvés directement et qui ne sont pas victimes. Directement, en tout cas, et donc membres des associations.
Oui,
elles sont assez. Le discours que moi je retiens, c'est plutôt que, comme vous l'avez dit, on veut la paix, on veut tourner la page. Et il s'agit plus de regarder vers l'avenir que d'un tabou qu'on ne voudrait pas évoquer. Il s'agit plus de chercher un consensus.
Est-ce que vous avez, vous, Kaouter Hadimi, qui avez suivi, peut-être que vous y êtes même allée en 2019 en Algérie?
Alors, en 2019, j'étais très frustrée car j'étais enceinte jusqu'au cou et j'étais coincée à Paris. Non mais en fait, dans le Hirak, la question n'était pas les années 90 à aucun moment, tout comme c'était pas vraiment non plus. On a beaucoup aussi fait parler de le Hirak et 62. On utilise des symboles de 62 dans le Hirak. Il y a eu des dessins, des manifestants, parce qu'en fait, c'est des grandes figures. Mais ce n'est pas ça le sujet. Le sujet du Hirak, à ce moment-là, c'est qu'on ne veut pas d'un cinquième mandat de Bouteflika. On n'en veut pas. On a atteint une limite, globalement et collectivement. On ne veut pas d'un être décharné dans un fauteuil roulant qui s'est assis sur la Constitution pendant des années. On ne veut plus de ça. Et c'est ça, le premier sujet du Hirak. C'est avant tout la fin de Bouteflika. Et c'est ce qu'a obtenu le Hirak. Et en ça, le Hirak est un premier succès. Il y a deux succès. Moi, j'ai toujours dit au Hirak, la première, c'est la fin de Bouteflika. Et ce n'était pas une évidence. Aujourd'hui, on a l'impression que c'était facile. Il en a fait quatre avant. La deuxième, c'est effectivement la réappropriation de l'espace public par tous les Algériens. Parce qu'en fait, on n'était plus ressortis dans la rue depuis les années 90. On ne sortait plus. On ne voyait plus la rue comme un endroit. Enfin, je dirais même qu'il y a un troisième succès, c'est qu'on a montré la capacité à le faire. Et c'est quelque chose qui ne semble pas aujourd'hui d'une grande évidence au vu de ce qu'est l'Algérie actuelle, mais qui est là, qui perdure, qui a existé et qui réexistera. Et ce n'était pas la première fois. 88 était aussi un exemple de ça, et même l'indépendance de l'Algérie.
Alors même si ce n'était pas le sujet, en effet, à l'époque, Abdelaziz Bouteflika, on ne voulait juste plus de lui pour ce cinquième mandat. Simplement, on peut rappeler aussi, pour raccrocher au sujet de ce jour, la décennie noire et la mémoire de cette période-là, qu'Abdelaziz Bouteflika, quand il arrive au pouvoir, il veut aller plus loin encore que son prédécesseur, Lyamine Zeroual, qui, avec son ordonnance de 1995, l'ordonnance de Rama, la clémence conditionnelle envers ceux qui accepteraient de se rendre. Abdelaziz Bouteflika veut aller plus loin en parlant d'un rétablissement de concorde civile. Comment pense-t-il à cette époque, Abdelaziz Bouteflika, mettre fin à la guerre civile et faire en sorte que ces exactions ne reviennent jamais? Et avec quelles limites, qu'est-ce qui est aujourd'hui critiqué par les associations de victimes comme Ajoie d'Algérie Mémoire, par exemple, présidée par Nazim Mekbel en Algérie?
Alors c'est intéressant, et justement je fais le parallèle parce que Abdelaziz Bouteflika, quand les Algériens et les Algériennes refusent le cinquième mandat, si on recontextualise, c'est lui qui vient en faiseur de paix quand même lorsqu'il est élu. Enfin, il parachève, hein, parce que ce que vous dites est tout à fait juste. Il reprend, en fait, il est dans le sillage de ce qu'a fait Zéro à l'avant. Et donc quand il arrive en 99, il fait campagne avec une colombe et son slogan de campagne, c'est pour la paix. Évidemment, dans le contexte des années 90, tout le monde est pour la paix.
Il s'auto-proclame faiseur de paix. En réalité, il termine juste ce que Zeroual avait fait et il vient. On rappelle que Bouteflika avait refusé d'être président avant Zeroual et que Zeroual devient président après le refus de Bouteflika de prendre un pays en guerre. Il arrive quand même à la fin, vraiment à la fin. Il y a déjà moins d'attentats quand on arrive Bouteflika. On est sur les groupes terroristes sont déjà quasiment décimés. Il y a plus grand chose. Il vient terminer quelque chose. Morgan, mais il s'autoproclame faiseur de paix, effectivement.
Oui, il promulgue finalement les accords. Enfin, le 99, la Concorde, ça, c'est exactement dans la continuité de ce qui a été promulgué auparavant. Et 2006, il s'agit de clôturer, de parachever ce qui est fait auparavant. Et finalement, l'enjeu, c'est davantage d'organiser les réparations pour les différents groupes de victimes qui sont catégorisées par l'État comme tel. Mais des tas de personnes restent en dehors de celles-ci. Et ça ne veut pas dire qu'elles n'ont pas subi, éprouvé les violences et qu'elles les éprouvent durablement. Ce qui change en 99, c'est l'évolution quand même du cadre qui est adressé aux repentis, donc ceux qui sont qualifiés de repentis dans les textes en tout cas. Donc c'est l'adaptation de la loi en 95 par la Rama à la clémence. L'idée c'est de dire si vous vous rendez, si vous reprenez, vous réinsérez dans la vie civile, les peines qui vous seront attribuées seront moins importantes. En 99 ça va encore plus loin et en 2006 finalement on dit voilà, si vous vous rendez, on efface tout, et il y a quand même une mise en équivalence des différents auteurs de la violence. Donc, d'un côté, des groupes, de celles et ceux qui étaient membres des groupes islamistes armés, et de l'autre côté, des forces de sécurité qui, dans le cadre de la lutte antiterroriste, ont commis des violences. Et donc, il y a une mise en équivalence de ces auteurs-là.
La charte pour la paix.
Je suis pas d'accord avec cette façon de faire. Moi, d'abord, c'était pas totalement ça. Il y a eu quand même quelque chose, c'est qu'il devait ne pas avoir de crime de sang. Il y a quand même une nuance à apporter, c'était ce qui était prévu dans la Concorde.
Pas de crime ayant entraîné la mort d'hommes, pas de massacre collectif, des attentats explosifs dans des lieux publics.
C'était pas simplement déposer les armes, il s'était quand même censé ne pas l'avoir. Après, la réalité, si je peux me permettre, beaucoup de forces de l'ordre ont été elles-mêmes victimes. Beaucoup. Les premières victimes, au tout début, c'est quand même des policiers, c'est des gens qui gagnent très peu, très mal leur vie et qui ont été. Ensuite, il y a un autre groupe aussi, c'est toutes les femmes violées, qui, elles, n'ont jamais subi, en général, réparation, parce que déjà, c'est un tel tabou, le viol, qu'elles n'ont pas été en capacité de le dire. Et c'est tous les enfants nés de ces viols-là, hein, tout ça. En fait, en réalité, dans tout ce qu'on est en train de se dire, ce qui est dramatique, c'est que le fait de ne pas avoir créé de grands procès, de grandes études, de grandes recherches, c'est là où la sociologie aurait été intéressante, c'est là où, en fait, la psychiatrie aurait été intéressante, où les enquêtes, où les associations, si on les avait laissées travailler, auraient été intéressantes, c'est d'en ressortir avec, effectivement, à la fois des victimes qui auraient eu gain de cause, mais aussi comprendre ce qui nous était arrivé.
Mais c'est ce que Morgane Jouaret va s'attacher à faire d'ailleurs en sociologie, puisqu'elle est docteur en sociologie. Merci Morgane Jouaret, vous avez soutenu ce mois-ci votre thèse « Dire et interpréter la violence, conflit d'interprétation après la guerre civile algérienne ». Parler de la guerre civile algérienne, ça n'est plus aujourd'hui, nous rappeliez-vous tout à l'heure, Kaouter Hadimi, un acte de courage, comme on l'a beaucoup dit au moment où, par exemple, a paru le livre de Kamel Daoud, entre autres, mais de beaucoup d'autres, on a reçu dans Culture d'Amina Damerji, ici.
Très beau livre.
Voilà, pour bientôt les vivants. La joie ennemie, Kaouter Hadimi, c'est le livre que vous venez de faire paraître, enfin que vous avez fait paraître cette année chez Stock dans la collection Manu au musée. Et je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous pour en parler. Merci.
Avec plaisir, merci beaucoup.
C'est l'heure de la revue de presse internationale.
France Culture, la revue de presse internationale. Catherine Dutu.
Et vous parlez ce matin, Catherine, des nouvelles manifestations aujourd'hui en Iran pour la quatrième journée consécutive.
Les manifestations s'étendent à la fois géographiquement, mais aussi dans les griefs contre le régime des mollahs, souligne Iran International, le New York Times, Fox News et le Guardian. Les étudiants ont rejoint hier les manifestations à Téhéran, déclenchées par l'inflation, rappelle la BBC. Cortège également à Karaj, dans le nord de l'Iran, mais aussi dans le sud, à Shiraz, ou encore dans l'ouest et le centre, à Arak et Ispahan, où des rues ont été bloquées par les manifestants avec des palettes en feu, montre BBC Persian, et des slogans tels que « Mort à Khamenei, le guide suprême ». Mort à Khamenei, mort au dictateur, peut-on également entendre dans des vidéos vérifiées par Iran International, média en exil. Preuve donc que la colère sociale s'étend au-delà du grand bazar de Téhéran, où les commerçants ont entamé une grève dimanche après la chute du rial iranien à un niveau record face au dollar américain. Des commerçants se sentent abandonnés par le pouvoir, rapporte le journal réformateur iranien Etemad, qui a suivi d'ailleurs une manifestation de ces commerçants. L'un d'entre eux explique au journal qu'avec le cours actuel du dollar, nous ne pouvons même plus vendre une coque de téléphone. Les responsables se moquent bien que nos vies dépendent de la vente de ces portables et accessoires. Selon un éditorialiste d'Iran International, c'est une rupture historique entre les commerçants, habituellement conservateurs, et l'État, accusé de sacrifier le pouvoir d'achat des Iraniens, l'économie intérieure, pour mieux financer les ambitions régionales de Téhéran et la prolifération de missiles. Alors, si l'État iranien promet le dialogue avec les revendications légitimes des manifestants, comme le rapportent l'agence d'État IRNA et la BBC, les forces de sécurité ont bel et bien violemment réprimé les manifestations, alerte Iran International.
Et les États-Unis saluent le courage des manifestants.
Qui aspire à un avenir meilleur, souligne l'administration Trump, citée par le Washington Post et la BBC. Assiste-t-on déjà à un changement, notamment pour les femmes, autour de l'obligation de porter le voile? Des Iraniennes ont confié à la Deutsche Welle avoir senti un changement depuis juin dernier et la guerre des 12 jours contre Israël. La police des mœurs a presque disparu et des femmes à Téhéran, notamment, circulent librement, tête découverte, vêtues comme elles le souhaitent. Un acte de défiance qui survient 3 ans après la mort de Mahsa Amini en garde à vue qui avait déclenché le mouvement Femmes, Vie, Liberté en 2022. On le voit partout, dans les cafés, les restaurants et même les centres commerciaux, des jeunes femmes flânent et font leurs courses librement. Plus personne ne les dérange, témoigne une Iranienne sous couvert d'anonymat. Une autre explique à la Deutsche Welle que la République islamique a relâché la pression sur le voile pour éviter d'autres mouvements de protestation comme ceux de 2022. Mais la liberté ne se résume pas au hijab. En réalité, c'est un enjeu politique, insistent ces Iraniennes qui témoignent donc au micro de la Deutsche Welle. Il s'agit, disent-elles, de vivre une vie normale, avec de vrais moyens de subsistance, une liberté, des choses dont nous sommes toujours privés, regrettent ces Iraniennes. Et le retour de bâton, au sens figuré comme au sens propre, n'est jamais loin. La prix Nobel de la paix 2023, Narges Mohammadi, a été frappée à coups de matraque par la police mi-décembre, alors qu'elle participait à une cérémonie en hommage à un avocat retrouvé mort, lui, début décembre. Rosrow Alicord, défenseur des manifestants et manifestantes réprimées en 2022 lors du mouvement Femmes, Vie, Liberté. Ce mois-ci encore, le guide suprême a lui défendu le hijab dans une allocution notamment relayée par BBC Persian. Et puis, le nombre d'exécutions en Iran a plus que doublé cette année, alerte Iran International et la BBC, avec plus de 1900 personnes tuées par le régime iranien, le pire bilan depuis une décennie. Et des groupes, notamment les Bahaïs, la plus grande minorité religieuse non musulmane d'Iran, subissent une persécution accrue, note Human Rights Watch ainsi qu'Iran International. Le régime des mollahs terrorise donc d'autant plus la population iranienne, souligne la BBC, qu'il se sent menacé de l'intérieur.
Et pour conclure, Catherine Dutu, en Amérique latine, il s'agirait de la première frappe terrestre des États-Unis contre le Venezuela.
Depuis que l'administration Trump a lancé une campagne militaire contre le trafic de drogue en Amérique latine, Donald Trump affirme que les États-Unis ont détruit une zone de mise à quai utilisée par des bateaux accusés de participer au narcotrafic au Venezuela, rapporte le Washington Post. Les États-Unis ont déjà mené une trentaine de frappes contre des embarcations de trafiquants présumés, rappelle le New York Times, faisant 107 morts dans les Caraïbes et le Pacifique. Alors Donald Trump n'a pas révélé le lieu précis de cette frappe, mais le président colombien Gustavo Petro précise que le site bombardé est une fabrique de cocaïne, note El País, dans le port de Maracaibo, dans l'ouest du Venezuela.
Merci Catherine Dutu.